Le Palais Enchanté de Luigi Rossi à l'Opéra de Dijon à partir de ce vendredi, sauf qu'il n'y a pas de public, donc il vous faudra assister à cet opéra en ligne. On est avec Leonardo Garcia Alarcón, toujours en résidence bien sûr à l'Opéra de Dijon. Leonardo Garcia Alarcón, on vous présente généralement comme une sorte de découvreur, c'est pas péjoratif dans ce que je vais dire, mais un peu rat de partition de bibliothèque. Et là, pour cet opéra, on parle de recréation.
Vous savez, il fait 20 ans déjà que je suis en train de vouloir créer cette pièce. C'est en septembre 2000 que j'étais à la bibliothèque du Vatican, justement, comme c'est rat de bibliothèque que vous écrivez, en train de découvrir des pièces de Marco Marazzoli, de Luigi Rossi, de Mazzocchi, des grands compositeurs romains de la première moitié du XVIIe siècle. Mais quand je suis tombé, c'était un vendredi, je me souviens de l'année septembre 2000, 23 septembre 2000, je suis tombé sur la partition de Il Palazzo Incantato, le Palais Enchanté, et quand j'ai vu cette écriture à double orchestre, à triple chœur, avec 22 solistes, et la richesse de cette partition unique, ça m'a fait la comparer tout de suite avec l'Orfeo de Monteverdi, qui a été écrit en 1607, et Luigi Rossi, c'est le compositeur de cette œuvre, de ce Palais Enchanté, et vous pouvez imaginer que depuis ces moments-là, il fait déjà 20 ans, comme je vous ai dit, que je veux créer cette pièce. Et on peut le faire aujourd'hui à l'Opéra de Dijon, ce qui est formidable.
J'ai cru comprendre qu'on ne pouvait le faire qu'en y mettant les moyens.
Exactement. Et c'était vraiment un vouloir de Laurent Joyeux et de l'Opéra de Dijon de donner une place historique aux pièces qui sont oubliées aujourd'hui. On a donné ici, par exemple, la Finta Pazza l'année 2019, qui est quand même le premier opéra joué en France. Aussi, on a donné le Prometeo, une pièce en castillan absolument oubliée dans les bibliothèques à Vienne, sur des textes de Calderón. Et aujourd'hui, on donne justement la pièce la plus impressionnante du point de vue des moyens et aussi de la qualité de la composition de Luigi Rossi, qui a conçu le XVIIe siècle. En fait, au XVIIe siècle, personne n'avait connu une pièce d'un effectif et des dimensions où chaque acte c'est presque comme un mini opéra. Et c'est justement cette pièce, Il Palazzo Incantato, qui a été créée en 1642, qui a fait parler de lui. Et c'est pour cela que cet opéra a rappelé l'attention de Paris et de la cour à Paris et surtout de Mazarin, qui a invité Luigi Rossi en 1646 donner et composé à Paris le premier opéra qui a été commandé par la France dans son histoire, 1646. Le faire à Dijon, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, et le faire surtout à une époque où le virus et le corona a vraiment envahi absolument tout le monde et aussi les salles de spectacle. Mais vraiment, il y a eu un intérêt énorme pour que cela puisse continuer.
Alors, on est en 1642, vous l'avez dit, au mois de février. Vous avez aussi évoqué Monteverdi. On est après Monteverdi. Est-ce qu'on est un peu à un tournant de l'histoire de la musique et peut-être même au début de l'histoire de l'opéra?
Je pense que c'est un moment assez révolutionnaire, même en Italie, où en 1637, on ouvre à Venise le premier théâtre public de l'histoire. Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire des personnes qui peuvent acheter un billet pour entrer à un théâtre d'opéra. C'est Venise, c'est 1637. À Rome, c'est pas du tout comme ça. Et c'est les familles patriarcales, ça veut dire comme les grandes familles qu'on connaît, les Farnese, Barberini, qui organisent des spectacles pour montrer que sa famille est la plus puissante. C'était des familles où généralement sortaient les papes. C'est-à-dire les papes étaient choisis entre ces familles romaines. La famille Barberini a créé le Palazzo Incantato au moment où un pape Barberini était pape. Alors c'est un moment où vraiment il a pu compter avec tous les moyens et la richesse aussi et l'appui du Vatican. Les tournants de l'histoire, c'est parce qu'après ce Palazzo Incantato, on va interdire l'opéra à Rome. Cette interdiction de l'opéra à Rome va faire que beaucoup de compositeurs doivent quitter la ville et que l'opéra vénitienne avec Monteverdi, Cavalli, Sacrati et tous les grands compositeurs vénitiens va vivre ses meilleurs jours. Justement, c'est dû aussi à que Rome arrête la production d'opéra, dû à tout ce que ce palais enchanté a provoqué, et surtout dans les familles qui étaient vraiment conservatrices, puritaines, autour du Vatican.
Vous avez fait référence aux conditions actuelles, au confinement, au fait que vous enregistriez à l'Opéra de Dijon sans public. Et on fait parfois le parallèle entre cet opéra et la situation actuelle, entre des gens confinés dans un palais et vous confinés. Je cite un article, confiné sur 10 mètres carrés de scène.
C'est vrai que l'histoire, pour partager avec le public, il s'agit d'Atlante, que c'est un magicien qui enferme toutes les personnes qui ont un désir ou un rêve à l'intérieur de ses palais. Ça veut dire toute personne qui a une pulsion, et n'importe laquelle, va tomber attirée par ses palais, comme une sorte de trou noir qui l'absorbe, et restera dans ses palais pour l'éternité, sans pouvoir retrouver d'autres personnes. Et alors, vous imaginez que la relation avec le monde actuel est très grande, c'est-à-dire que tout ce confinement de chaque scène dans l'opéra où tout le monde se plaigne de ne pas pouvoir retrouver l'être aimé, ou vraiment même sa patrie, c'est quelque chose qui est fait un écho énorme. On se croyait nous-mêmes confinés à l'intérieur de l'opéra de Dijon tous ces jours par les mêmes Atlantes. C'est-à-dire que on était tous en train de travailler et faire une sorte de catharsis, une purification interne grâce à ce que cette pièce est en train de raconter. Elle est en train de raconter un peu nos vies. Et c'est cela qui était vraiment pour nous quelque chose de très très touchant parce que personne, comme vous pouvez imaginer, a organisé cet opéra en connaissant tout cela.
Vous avez travaillé évidemment avec Fabrice Murgia, le metteur en scène. Comment se passait le dialogue entre le musicien et le metteur en scène dans la mesure où on nous dit que l'image et même la vidéo, Fabrice Murgia dit quelque part qu'il faisait une sorte de film live. Comment s'est passé le dialogue avec l'homme d'image et l'homme de musique que vous êtes?
Alors, Fabrice Murgia n'est pas musicien, mais il a un sens du rythme unique. Et c'est cela que nous a permis de travailler ensemble d'une manière très très naturelle. Et il est directeur du Théâtre national de Belgique. Et je ne le connaissais pas dans son travail et j'ai pu apprécier à quel point lui, avec une dramaturgie ancienne, avec un poème du début du XVIIe siècle, avec une musique tout à fait inconnue, il a pu imaginer une scène qui respire vraiment et qui est absolument compréhensible dès le début, qu'est-ce qui est en train d'arriver, quelles relations les personnages sont en train d'avoir. C'est une scène moderne, ça veut dire on est à un moment dans un hôtel, dans un aéroport, et dans un hall des gares, ça veut dire dans des différents endroits qu'on reconnaît tout de suite, comme dans un hôpital aussi, comme des lieux de notre vie contemporaine. Alors, cela provoque que on se retrouve dans une sorte de palais dans lequel on aime bien tous les plaisirs qui nous entourent dans ce palais, mais aussi on voit que pour lui, pour Fabrice, c'était très important d'être très très clair dans la lecture que le public pouvait avoir de la pièce, parce que sinon on pouvait se perdre, parce qu'il s'agit des histoires, des vies séparées. C'est exactement comment aujourd'hui, les gens sont en train de décrire leur vie sans voir leur famille, sans voir leurs amis, sans pouvoir sortir. Et c'est comme des témoignages de chaque personnage et dans chaque scène. Et lui, il a réussi à faire cela et à faire un écho de ce qu'on est en train de vivre.
Queste mura te ripone dalla aperta prigione e partire non consento.
Je reste avec l'importance de l'image Leonardo Garcia Alarcón. Il y a la Capella Mediterranea amplifiée à 40 musiciens, 13 solistes. Est-ce que cette importance de l'image, l'utilisation de la vidéo et tous les effets qui peuvent être à disposition d'un metteur en scène n'apporte pas tout de même des contraintes aux solistes?
Je pense que pour les solistes, avoir une relation avec un orchestre plus grand, c'est toujours vraiment la source du bonheur. Ça veut dire avoir un plus grand son qui peut arriver vers eux, toutes ces harmoniques qui arrivent vraiment à leur peau. Et cela leur permet de jeter de manière différente.
On est porté par l'orchestre.
Exactement. Et aussi, il y a une basse continue énorme. Vraiment, ici, il y a une harpe, du luth, du clavecin, orgue, basson, du viol de gamme, du violoncelle, de contrebasse. C'est vraiment énorme comme basse continue. C'est-à-dire qu'il y en a toutes les couleurs qu'on peut imaginer pour incarner les caractères d'un personnage.
Leonardo Garcia Alarcón, c'est à voir sur le site de l'Opéra de Dijon en ligne ce vendredi, dimanche, enfin aux heures prévues pour les représentations, si le public avait pu vous rendre visite. Ne me dites tout de même pas que toute cette machine, j'y mets un côté sympathique si vous me le permettez, pour uniquement faire 3 séances vidéo. Alors qu'est-ce que ça va devenir après ?
Alors bien sûr qu'on attendait pouvoir jouer, mais c'est pas possible. Alors on va jouer l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va jouer à l'Opéra de Nancy, qui reproduit les spectacles, et aussi à l'Opéra de Versailles. Et on espère aussi pouvoir faire d'autres productions ailleurs, une fois que le spectacle soit connu. En tout cas, on a pu faire la création, et c'est là qui est formidable, d'avoir pu maintenir cette période intense à Dijon. C'est-à-dire, la pièce, elle existe, elle respire aujourd'hui.
Le Palais Enchanté, c'est donc à voir sur le site internet de l'Opéra de Dijon et uniquement. Alors, aux heures prévues pour les représentations à partir de ce vendredi 20h, il y a 3 représentations en ligne, donc. Ensuite, on pourra encore le voir jusqu'au 31 décembre, toujours sur le site de l'Opéra de Dijon et pas ailleurs. Ensuite, de vraies représentations devant un public. Autant dire que c'est une affaire à suivre.